Vous écoutez RTL.
Première radio de France. RTL.
Ici, à 113 mètres de profondeur, il y a une cavité secrète qui pourrait renfermer un élément clé de notre passé.
Comment tu veux qu'on y descende ?
Les catacombes.
La curiosité est un vilain défaut.
Il y a plus de 300 km de galeries juste sous nos pieds.
Les restes de 6 millions de cadavres y sont entreposés.
Jusqu'à 22h.
On va traverser ça ?
C'est parti.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Comme promis, notre curiosité est souterraine. Nous descendons dans les entrailles de Paris avec notre invité, l'historien Gilles Thomas. Bonsoir.
Bonsoir.
On écoutait là un extrait d'un film catacombe, film américain sorti l'an dernier. Vous allez nous servir de guide. Avec une question historique pour commencer, peut-être surprenante, faut-il avoir la tête coupée pour entrer dans les catacombes ?
En fait, non. Les catacombes rassemblent les ossements de tous les cimetières de Paris. Et c'est une idée que l'on a eue à la fin du XVIIIe siècle. Pour des raisons de salubrité, on a décidé de vider le plus grand cimetière de Paris, qui était le cimetière des Innocents. Et suite à ça, comme ça s'est bien passé, on a commencé à transférer tous les cimetières. Mais en fait, ces transferts d'ossements ont duré de fin décembre 1785 à décembre 1933, sans pratiquement d'interruption.
Et donc, parmi ces ossements transférés, il y a quelques guillotinés célèbres ?
Il y a quelques guillotinés parce qu'effectivement on a transféré par exemple le cimetière des Hérancis qui était du côté de Courcelles, dans lequel se trouvaient Lavoisier, Camille Desmoulins par exemple, alors que la majorité des guillotinés sont allés dans le cimetière de Picpus. Mais ceux qui étaient dans le cimetière des Hérancis se retrouvent mêlés aux ossements de toute la population, puisqu'il n'y a pas de séparation entre riches, pauvres, entre guillotinés ou personnes mortes de sa propre mort.
Dans votre livre publié aux éditions Les Passages, vous racontez l'histoire de Philibert Asper. C'est qui Philibert Asper ? Que dit cette légende ? Parce que ça nous ramène aussi à l'époque de la Révolution, c'est ça ?
C'est tout à fait, oui, c'est tout à fait de circonstance. Mais c'est pas une légende, c'est un fait avéré. C'est-à-dire qu'en 1793, c'est la Révolution, mais c'est la partie sombre de la Révolution, c'est la terreur. Il y a un personnage qui disparaît de Paris et de la surface de Paris, et c'est Philibert Asper. Donc il disparaît le 3 novembre 1793, et on n'entend plus parler de lui. Et on retrouve son squelette 11 ans plus tard, pratiquement 11 ans plus tard, le 30 avril 1804, on le retrouve à 20 mètres sous terre, à proximité du jardin du Luxembourg. Et chose très, très étonnante et qui nous étonne encore aujourd'hui, c'est qu'on décide de l'enterrer sur place à 20 mètres de profondeur. Et jusqu'à tout récemment, la seule information historique que l'on avait, c'était le texte sur la tombe qui a été mise. On a vraiment mis sous terre un monument gravé et on avait le nom du personnage, donc Philibert Asper. Et l'histoire veut, puisqu'un historien s'était intéressé au sujet en 1908, que ce soit le portier du Val-de-Grâce. Mais c'est tout ce que l'on savait. Et en 2010, une amie à moi a trouvé, en fait, un document dans les archives qui décrit que ce Philibert Asper, quand il est décédé, il avait plus de 60 ans. Sa veuve était toujours vivante. Et ça, c'est un mystère supplémentaire parce que pourquoi a-t-on décidé de l'enterrer à 20 mètres de profondeur alors que sa veuve était vivante ? On aurait très bien pu éventuellement le transférer dans les catacombes, transférer les ossements dans les catacombes et mettre sur place. Ici, on a découvert le corps de Philibert Asper, où on aurait pu l'enterrer dans un cimetière, ce qui était logique puisque la veuve était présente. Donc tout ce qu'on peut imaginer, c'est que la veuve a pu éventuellement assister à l'inhumation sur place de Philibert Asper.
Donc dans les catacombes, hein ?
Dans les carrières. Donc c'est une partie en dehors des catacombes. Ouais. Mais en tout cas, elle n'a certainement jamais pu retourner sur la tombe de son mari.
Et cette tombe, on peut la voir encore aujourd'hui ?
Cette tombe existe toujours, bien sûr. Elle est près de l'école des mines, sous le boulevard Saint-Michel. Alors ce qui est plus surprenant, c'est que grâce à la découverte de ce document d'archives, j'ai pu retrouver des collatéraux de Philibert Asper. Donc la famille Asper est toujours vivante et elle est toujours dans la région d'où était originaire de Philibert Asper. Et aujourd'hui, il reste 3 personnes qui sont encore capables de transmettre le nom Asper. Et ces 3 personnes sont des adolescentes maintenant. Donc si elles se marient et qu'elles ne décident pas de garder leur nom, de conserver leur nom, ben le nom d'Asper va se perdre définitivement.
Et ce nom, il est un peu mythique pour tous les amoureux des catacombes, c'est ça ?
Parce que cette histoire
est devenue légendaire.
Il est mythique parce que c'est la seule personne qui est enterrée et dont on connaît le nom par ce monument gravé qui a été mis en 1804.
Alors je vous demandais, est-ce qu'il faut avoir la tête coupée pour rentrer dans les catacombes ? Est-ce que, bon, on a bien compris que non, mais est-ce qu'il faut avoir la tête basse ? C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut se baisser pour rentrer dans les catacombes ? Moi, je n'y suis jamais allé, donc je vous pose vraiment les questions de Béotien. C'est quoi la hauteur sous plafond ?
Donc alors, je vais définir ce que sont les catacombes. Oui. Les catacombes, on a choisi ce nom à la fin du XVIIIe siècle, on l'a choisi en fait en 1782, par référence aux catacombes de Rome. Parce qu'on cherchait un endroit où transférer les ossements de ces cimetières qui posaient problème dans Paris. Et donc, on a trouvé un endroit qui était des carrières à l'extérieur de Paris, puisque Paris était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Mmh. C'était sous la commune de Montrouge. Et on a transféré, on a fait d'abord, en 1782, il y a un opuscule anonyme qui a circulé disant « On va créer des catacombes à Paris ». Et de nos jours, on pourrait dire que c'est un choix marketing judicieux parce que ce mot « catacombe » a été utilisé et depuis utilisé pour l'ensemble des carrières qu'il y a sous Paris. Donc, normalement, le mot « catacombe » devrait être restreint à la partie ossuaire municipale. Mmh. Donc, ce sont d'anciennes carrières.
L'ossuaire municipal, ça se trouve où ?
L'ossuaire municipal, c'est un des 14 musées de la ville de Paris, ouais, dont l'entrée se trouve place d'Enfer Rochereau. Quand on rentre place d'Enfer Rochereau, on fait en gros 500-600 mètres dans des couloirs souterrains avant d'arriver à l'ossuaire proprement parlé. On fait ensuite une espèce de petit labyrinthe dans cet ossuaire et on parcourt ensuite à nouveau 500-600 mètres avant de ressortir à la surface.
Alors ça, moi, c'est l'image que j'ai des catacombes, ça.
Les catacombes, c'est la partie normalement voilà, avec les ossements. C'est tout à fait ça. Oui.
D'accord.
Mais ces catacombes, donc cette partie avec les ossements, on a déposé les ossements dans une ancienne carrière. Mmh. Et toutes ces anciennes carrières avaient été exploitées, ont été exploitées en souterrain dès le Moyen-Âge. Donc à partir de la fin 12e, début 13e siècle, et on a exploité en souterrain, mais c'était sous la campagne environnant Paris. C'est Paris qui, en s'agrandissant, est venu se construire au-dessus du vide des anciennes carrières.
D'accord, et ces carrières, elles sont vastes ?
À l'origine, les carrières, en législation française, en droit, si on est propriétaire du sol, on est propriétaire du sous-sol jusqu'au centre de la terre. C'est l'article 552 du Code civil.
Ça fait de la marge.
Ce qui fait que chaque petit propriétaire terrien, au Moyen-Âge, qui voulait exploiter la terre, le calcaire qui était sous chez lui, le faisait. Donc on avait, en fait, à l'origine, des petites carrières artisanales indépendantes. Et ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, quand Paris s'est agrandi et Paris est venu recouvrir le vide des anciennes carrières, parce qu'on a oublié qu'il y avait ces carrières. Mmh. Donc ça faisait plusieurs siècles que ces carrières étaient abandonnées. Paris commence à s'écrouler. Donc on crée un service pour rechercher où sont ces carrières, pour en faire la cartographie et pour consolider tout ce qui est sous les voies publiques et les bâtiments du roi. Et en fait, quand on fait ces consolidations, on a l'idée d'interconnecter toutes ces carrières indépendantes et on crée un réseau qui fait, je dirais maintenant, en kilométrage de galerie, bout à bout, pratiquement 300 km. Mais à l'origine, ces carrières, c'était des carrières d'extraction de pierre. Mmh. Donc la première méthode d'exploitation, on va dire, c'est 2 mètres, il va rester 2 mètres de vide après la fin de l'exploitation. Mais la seconde méthode qui apparaît fin 15e, début 16e siècle, c'est 1m30, 1m50 le vide. Donc, au moment où on fait les travaux de consolidation, on décide, en fait, le premier inspecteur général des carrières a eu cette idée géniale, c'est de s'arranger que l'on puisse passer partout, debout, avec une brouette. Donc, en gros, la hauteur, c'est à peu près 2 mètres.
D'accord, et on passe à peu près partout. On continue de vous raconter l'histoire des sous-sols de Paris, l'histoire du Paris souterrain. C'est d'ailleurs le titre de votre livre, Les Catacombes, publié aux éditions Le Passage. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Toujours avec vous. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On explore les entrailles de Paris dans la curiosité. Bienvenue dans les catacombes avec pour guide l'historien Gilles Thomas. Vous avez expliqué donc ces catacombes ont été formées en plusieurs décennies, c'est ça, creusées, que les circuits ont été réunis les uns aux autres et qu'aujourd'hui elles font à peu près 300 kilomètres. Est-ce qu'il y a deux sortes de catacombes ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les catacombes officielles, celles qu'on peut visiter ? Et les autres, celles que des petits malins réussissent à investir la nuit.
Donc en fait, il y a les catacombes officielles, mais on peut dire les catacombes, l'ossuaire municipal, et il y a le reste, les anciennes carrières. Mmh. Et la partie ossuaire municipale ne représente qu'un 700e de l'ensemble des carrières.
Ah oui, c'est gigantesque.
Ou inversement, les catacombes, c'est tout petit.
Oui, et donc tout le reste, normalement, est interdit ?
Tout le reste est interdit. Est interdit suite à un arrêté qui a été pris le 2 novembre 1955, qui interdit à toute personne de pénétrer et circuler dans les anciennes carrières souterraines de la ville de Paris sans autorisation. Mmh. Mais cet arrêté, peu de gens le savent, cet arrêté a été pris suite à la guerre d'Algérie, parce qu'on s'est imaginé que des personnes... Il y avait une loi qui a été prise le 3 avril 1955 qui interdit aux personnes de se rassembler. Et on se dit, si jamais elles vont sous terre se rassembler, on n'a rien contre eux. Donc on prend cet arrêté en novembre 1955 disant, il est aussi interdit d'aller sous terre. Mais c'est uniquement pour ça, quoi.
D'accord. Et c'est appliqué? C'est-à-dire qu'on risque une sanction?
Bien sûr. L'arrêté est toujours valable. C'est une infraction de premier ordre, puisqu'on contrevient à cet arrêté.
Elles sont faciles à trouver, ces entrées officieuses, interdites, je sais pas, sur Internet ou ailleurs.
Alors, avec Internet, on trouve tout ce qu'on veut, mais oui. c'est cette partie qui est aujourd'hui interdite, qui est en dehors de l'osphère, a toujours été fréquentée illégalement. C'est-à-dire que la première trace, moi, que j'ai de fréquentation clandestine, c'est mai 1777. L'inspection des carrières, le service qui est chargé de surveiller, de superviser, de contrôler, de regarder la stabilité de la ville, l'inspection des carrières qui a été créée le 4 avril 1777, un mois après, il y a une lettre dans les archives qui dit « Nous avons des individus qui viennent la nuit et les fêtes dans nos carrières, donc les fêtes, les jours de fêtes dans nos carrières, ils nous débouchent les puits. J'ai le nom de 3 d'entre eux et l'adresse que je viens de transmettre au lieutenant général de police. » Donc dès mai 1777, il y a des personnes qui circulent clandestinement.
Parce qu'il y a une fascination pour le lieu, le fait que ce soit souterrain, qu'est-ce qui explique ça ?
Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer. Le fait que ce soit souterrain, mais sous Paris, sous la plus belle ville du monde, sous une ville qui est une ville historiquement intéressante, qui est au point de vue architecture, qui est remarquable. Et on est sous la ville même, on n'est pas sous la campagne. Si vous allez vous promener à Maastricht, Valkenburg ou Pays-Bas, vous êtes sous la campagne environnante. Vous n'êtes pas vraiment
parce
sous
qu'il y a des catacombes qui sont réputées là-bas aussi.
Il y a des carrières là-bas. Oui, mais à chaque fois, vous êtes sous la campagne, vous n'êtes pas sous la ville. Mais là, la ville a tellement pris d'ampleur qu'elle est venue se construire sur les carrières. Donc dès l'origine de ce réseau, quand ce réseau commence à s'architecturer en 1777, les personnes sont fascinées parce que c'est sous Paris, c'est labyrinthique,
et on sait où on est.
C'est aussi une trace de l'histoire de Paris. C'est un double de la topographie du Paris du 18e. Parce que
attendez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est, j'en sais rien, sous le Louvre, on sait qu'on est sous le Louvre, c'est indiqué. Il y a des, je sais pas.
Si on pouvait être sous le Louvre, ça serait indiqué. Parce que les carrières, en fait, les carrières.
Ah, je vous ai dit que j'y connaissais rien.
Les carrières, représentent 1/10 de la surface de Paris.
Oui, d'accord.
Donc c'est sous le 5e, 6e, 14e, 15e arrondissement. Ça, c'est pour le réseau principal. Mm-hmm. C'est sous le 13e arrondissement, il y a un petit réseau qui fait 25 km. Et sous le 16e, il y a un petit réseau qui fait 7 km.
Et donc, je repose la question, c'est balisé, on sait où on est ?
On sait parfaitement où on est, parce que justement, l'idée de génie qu'a eu le premier inspecteur des carrières, qui était Charles-Axel Guillaumeau, ça a été de positionner au carrefour des galeries, à l'aplomb des carrefours des rues, de positionner des noms, des plaques avec des noms, comme les noms de rues avec lesquels on vivait, mais depuis très peu de temps. Puisqu'en surface, on a des noms de rues dans les rues que depuis 1729. Mmh. Donc le service des carrières est créé 50 ans après. Et ben on se dit, tiens, c'est logique, pour savoir parfaitement où on est, on met le nom des rues. Et sous des bâtiments, bon là, le Louvre n'est pas sur carrière puisqu'il est dans la partie marécageuse, sous des bâtiments prestigieux tels que le Val-de-Grâce, il va y avoir une plaque qui indique qu'on est sous le Val-de-Grâce. Sous l'Observatoire, il y a des plaques qui indiquent qu'on est sous l'Observatoire. Donc on indique en dessous, on peut lire en dessous le nom des rues du 18e siècle et le nom de bâtiments des fois qui ont disparu. On est sous les Chartreux n'existent plus, c'est le jardin du Luxembourg. Ouais. Donc on a vraiment la doublure topographique et toponymique du Paris du 18e siècle.
Et ça, c'est ce qui passionne l'historien que vous êtes.
Bah ça, c'est fascinant.
De se promener dans les différentes époques de Paris, c'est ça ?
C'est fascinant parce qu'en l'espace de même pas 2 minutes, vous descendez 20 mètres sous terre et vous êtes dans une tranche de l'histoire de Paris qui est figée il y a plus de 200 ans.
Question de Philippe qui nous appelle d'Ille-et-Vilaine. A-t-on fait des découvertes archéologiques dans les catacombes de Paris ?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle des découvertes archéologiques. Les carrières de Paris ont été exploitées en souterrain à partir du Moyen-Âge. Et on a arrêté les exploitations en 1813, mais on commence les consolidations en 1777. Et pour faire ces consolidations, on ramène des matériaux de la surface. Donc, les matériaux que l'on peut trouver dedans sont souvent des matériaux des bâtiments en démolition que on en profite pour remblayer un peu les carrières. Mmh. Mais par exemple, pour les Chartreux, quand on est sous le jardin du Luxembourg, donc à l'emplacement de l'ancien couvent des Chartreux, on a des meneaux de fenêtres qui proviennent des bâtiments des Chartreux. Ça, c'est archéologique.
D'accord. On parlait des ossements tout à l'heure. C'est sans doute ce qui fascine le plus le grand public. Et d'ailleurs, c'est l'un des musées de Paris, ce que vous nous disiez.
C'est l'un des 14 musées.
Ouais. Y a, en dehors des guillotinés célèbres, il y a d'autres personnalités connues dont les restes, dont les ossements sont dans les catacombes.
Dans les ossements des catacombes, ce sont donc les ossements de toute la population de Paris, du sans domicile, de la prostituée à l'homme noble. Mais on a des écrivains, on a des architectes, on a Jules Hardouin-Mansart, François Mansart, on a Claude Perrault, on a Charles Perrault, le fabuliste, on a Lully, on sait qu'il y a ces
Rabelais,
ossements.
Je crois,
oui, aussi.
Rabelais, oui.
Et on sait qu'il y a ces ossements-là parce qu'on a simplement regardé qui était inhumé dans les cimetières que l'on a transférés.
Ah, mais on ne sait pas où sont les ossements, il n'y a pas de marque.
Non seulement on ne sait pas où sont les ossements, et en plus tout est mélangé. Et ça, il va y avoir un os d'une personnalité à côté du crâne d'un inconnu, etc. Tout est parfaitement mélangé.
Il n'y a aucune pierre tombale à part celle dont vous parliez tout à l'heure, il n'y a pas de pierre tombale.
Alors, celle de Philibert Asper, c'est une vraie pierre tombale, c'est une vraie tombe. Mmh. Mais il y a une pierre tombale dans l'ossuaire, c'est celle de François Gelin, dite Dame Le Gros, qui a été descendue dans les catacombes vers 1860.
C'est qui, ça?
C'est une dame qui s'est intéressée, en fait, on ne la connaîtrait pas, je veux dire, s'il n'y avait pas cette pierre tombale, pratiquement. Oui. Elle s'est intéressée à un prisonnier célèbre au XVIIIe siècle qui s'appelait Latude. Et Latude, en gros, a passé sa vie à passer 30 ans en prison. Il s'évadait, il a été repris, il s'évadait. Et elle s'est prise de passion pour ce prisonnier et elle a intercédé pour qu'il puisse sortir en fin de prison. Mmh.
Toutes ces histoires sont à découvrir dans votre livre, Gilles Thomas, Les Catacombes, Histoire du Paris souterrain. C'est publié aux éditions Le Passage. On a encore plein de questions à vous poser. Qui entretient les catacombes? Qui peut-on y croiser? Et puis forcément, même si ce n'est pas le plus important, on va parler des messes noires, de tous ces fantasmes qu'il peut y avoir liés au souterrain de Paris. Et
puis... Vous écoutez RTL. Curiosité est un vilain défaut.
Ça va tout le monde?
Je sais pas. Et c'est quoi le plan maintenant, hein?
On peut pas faire demi-tour. On continue.
RTL.
Me dites pas qu'on est revenu sur nos pas.
C'est exactement pareil.
Non, tout est à l'envers.
L'entrée a disparu.
Attendez, il y a un passage.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Oh, avec Gilles possible. Thomas, historien, on se promène dans les sous-sols de Paris, on découvre l'histoire des catacombes. Ce film-là, dont on entend encore un extrait, film américain sorti l'an dernier, vous y avez plus ou moins participé, c'est ça, Gilles Thomas ?
J'ai été, je dirais, conseiller technique pour le choix des lieux de tournage. Donc ça s'est tourné à Paris, ça s'est tourné en grande banlieue parisienne. Et oui, j'étais en contact avec l'équipe 6 mois avant qu'ils aient l'idée d'un scénario. Mm-hmm. Et j'ai suivi le tournage pendant 2 mois. Ouais.
Forcément, c'est un film d'horreur. Parce qu'on est dans la caricature des catacombes, c'est ça.
C'est un film d'horreur, oui. Et là, c'est vraiment de l'horreur sanguinolente. Et la plupart des films, enfin des scénaristes qui imaginent de tourner quelque chose dans les carrières de Paris, c'est toujours très anxiogène. Mmh.
Ça vous agace, ça? Vous qui êtes un cataphile, c'est ça, un amoureux des... Non, vous n'êtes pas un cataphile, je vais faire la grimace. Si vous le suivez sur RTL.fr, cette question piquait un peu, manifestement.
Non,
Thomas,
mais
non,
il n'est
pas d'accord, non? C'est quoi un cataphile? Alors, voilà, au début, cataphile, c'est quoi?
Il y a aucun problème. Si on se réfère à la définition qui est donnée, qui est apparue au début des années 80, un cataphile, oui. C'est quelqu'un qui aime, puisque kata, c'est le début de catacombe, philaine veut dire aimer en grec. Donc, c'est quelqu'un qui aime et qui respecte. Mais c'est apparu dès le début des années 80, quand Jacques Lang a financé une étude sur les personnes qui descendaient sous terre. Et quelques années plus tard, on s'est aperçu qu'il y avait des personnes qui ne respectaient pas trop l'intégrité des sites, qui commençaient à laisser leurs ordures ou à dégrader des sites. Mmh. Et on les a appelés cataclastes. Mais de la même façon que catacombe est devenu générique pour l'ensemble des carrières de Paris, malheureusement, cataphile est généralement utilisé de façon générique pour toutes les personnes qui descendent sous terre, quel que soit leur intérêt ou quel que soit leur manque d'intérêt.
Et alors, il y a quoi? Il y a différentes catégories, en fait, parmi ceux qui descendent sous terre?
Non, il y a différents...
Est-ce que vous classez les...
Non, moi, je classe pas, puisque mais il y a différents intérêts. Mais les intérêts se recoupent. Par exemple, une personne peut s'intéresser à la photo, une personne peut s'intéresser à l'histoire, une personne peut s'intéresser à l'architecture. Mais une personne qui s'intéresse à l'architecture va être amenée à faire des photos. Donc, il y a différents intérêts chez les cataphiles, mais qui se regroupent nécessairement.
Alors, dans votre livre, les catacombes, histoire du Paris souterrain, vous décrivez une plage, une piscine, un petit côté Club Med dans les catacombes. C'est quoi? Ça.
Alors ça, ce sont des surnoms qui ont été donnés à certains lieux par des personnes qui descendent sous terre, mais les noms qui sont donnés peuvent changer d'emplacement ou un emplacement qui a un nom peut changer de nom en fonction de l'utilisation. La plage, c'est simplement une zone de carrière qui a été remblayée en partie avec du sable, mais avec un sablon très très fin. Donc les personnes ont appelé ça la plage à cause de ça, et à cause de ça, il y a dans les années 80 un groupe de personnes qui descendaient qui a eu l'idée de peindre une gigantesque vague, mais la célèbre vague du peintre graveur japonais Okusai en japonais. Mmh. Et donc, cette vague fascine énormément la NHK de savoir qu'il y a la postérité de Ingres est même représentée sous Paris.
Et donc, les journalistes japonais viennent régulièrement dans les catacombes pour ça ?
Ne viennent pas régulièrement, mais sont venus plusieurs fois tourner des documentaires, justement parce qu'ils sont fascinés par Okusai, c'est un de leurs maîtres.
Bien sûr.
Et ils sont venus en Europe pour chercher toute la représentation qu'il y avait de cette vague, et ils ont voulu voir ce qu'il y avait sous Paris.
Évidemment, passionnant. Donc ça, c'est pour la plage, la piscine. C'est quoi la piscine ?
La piscine, alors la piscine, c'est une partie de galerie qui est remplie d'eau. qui est rempli d'eau, parce que lorsqu'on est au niveau des carrières sous Paris, on est à peu près à la même altitude que la nappe phréatique. La nappe phréatique, c'est un nappe d'eau que l'on atteint lorsque l'on creuse un puits à partir de la surface. Et cette nappe fluctue plus ou moins, et il y a des secteurs qui peuvent être plus ou moins remplis d'eau. Mmh. Donc la piscine, c'est un endroit qui généralement est toujours mouillé, quoi.
Et est-ce qu'il y a des spéléologues, du coup, dans les souterrains de Paris, dans les catacombes ?
Alors, il y a des spéléologues de Paris qui, pour eux, c'est un terrain de jeu, qui descendent sous Paris, puisque les carrières, ça ressemble à leur univers. C'est souterrain, c'est labyrinthique, c'est sombre, donc ça peut être un terrain de jeu pour eux. Il y a des spéléologues qui peuvent venir, d'étrangers pour se promener sous Paris. Mais inversement, il y a un spéléologue célèbre qui est Michel Siffre, qui, lui, a connu énormément les carrières. Et quand il a fait sa première expérience de confinement souterrain, où il est resté 2 mois isolé dans une grotte dans les Pyrénées, il raconte dans ses souvenirs que d'un seul coup, il s'est rappelé d'une fête qu'il avait organisée dans les catacombes sous Paris, dit-il.
Il y a souvent des fêtes dans les catacombes.
Il y a eu des fêtes, mais c'est comme les trains qui arrivent en retard, on ne parle que d'eux. Mmh. Il y a eu des fêtes, mais les fêtes, ce n'est pas non plus un phénomène très très récent. Par exemple, en 1874, il y a un individu qui est surpris à la sortie des carrières de Paris du côté de la place d'Enfer-Rochereau, avec une vingtaine, 20-25 personnes, et il s'avère que cet individu a été verbalisé, a été écarté du service a eu une sanction financière parce qu'il faisait partie du service des carrières, et il avait organisé une petite balade avec un chœur, représentation de chants sous terre, en 1874. En 1897, le 2 avril, il y a eu un concert clandestin organisé.
Ah, ça, on en parlera tout à l'heure. Gardez-le. Il faut garder des biscuits pour la dernière séquence. Je voudrais qu'on dise encore un mot d'une chapelle. Est-ce qu'il y a une chapelle ? Je crois que j'ai lu ça en préparant votre interview. Il y a une chapelle ? On peut célébrer la messe ?
Non, je vois à quoi il est fait. Ah, je pensais à autre chose, mais il y a eu dans l'ossuaire municipal.
Ouais.
Il y a au moment où on était en train d'aménager l'ossuaire, on a découvert un tombeau antique du côté le long du Rhône, entre Vienne et Valence, et l'aménageur des catacombes pour les ouvriers au public, qui était Ricard de Thury, le successeur de Charles-Axel Guillaumeau, a eu l'idée de reproduire ce tombeau antique dans l'ossuaire municipal, et des messes ont été organisées au niveau de cet hôtel une fois par an jusque dans les années 70.
D'accord, donc des messes, mais pas des messes noires. Hein.
Non, des vraies messes religieuses consacrées.
Est-ce qu'il y a des messes noires ?
Non, ça c'est du fantasme. Il y a pas de messes noires. Parce qu'il faut pouvoir accéder au souterrain, donc c'est déjà difficile. Il y a eu, comme je disais, quelques concerts qui ont été organisés, mais il n'y a pas de messe noire, comme il n'y a pas d'orgie. Ça, c'est les fantasmes que reportent, ce sont les personnes de la surface qui reportent ces fantasmes sous terre, parce que si des personnes descendent, et la plupart du temps, ces personnes qui descendent sous terre le faisaient ou le font le soir, donc c'est qu'elles ont quelque chose à y cacher. Mmh. Donc automatiquement, le fantasme travaille et on va imaginer des messes noires, des orgies, mais non, il n'y a pas tout ça.
Vous écoutez RTL.
Première radio de France. 22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité de découvrir les catacombes Paris souterrains avec l'historien Gilles Thomas. Je ne vous demande pas si vous y allez, de toute façon c'est interdit. Pour écrire votre livre publié aux éditions Le Passage, vous avez réuni plusieurs mémoires, c'est ça ? Des témoignages, des...
J'ai interviewé effectivement des personnes qui descendaient dans les carrières dans les années juste après-guerre, ouais. Donc avant que l'arrêté préfectoral soit pris. Et j'ai lu des mémoires. Aujourd'hui, j'ai recensé à peu près 50 mémoires universitaires sur la fréquentation des carrières.
Il y fait froid ?
Il y fait toujours la même température, été comme hiver, nuit comme jour. C'est à peu près 15 degrés, on va dire.
Est-ce qu'il y a de l'air qui circule ? Encore une fois, je pose les questions les plus basiques. Hein, j'y suis jamais allé.
La température est constante, l'humidité est à plus de 90%, mmh. Et l'air circule parce que les puits qui permettent d'accéder aux carrières sont des puits, le sommet de ces puits est couvert par une plaque qui ressemble à ce qu'on appelle une plaque d'égout dans le langage courant, mais c'est un tampon de regard, et il y a 200 à 250 tampons de regard, et rien que le petit trou au milieu de cette plaque d'égout permet de faire circuler l'air, il n'y a pas de problème.
Mmh. Est-ce qu'on pourrait vivre dans ces catacombes un peu comme dans des maisons troglodytes, quoi, d'une certaine façon ? Est-ce qu'on peut imaginer ça ?
On peut l'imaginer, mais on peut pas le réaliser parce que il faut pouvoir y accéder. C'est sombre, c'est humide. Donc éventuellement les sans domicile qui vivent à Paris sont beaucoup plus heureux dans un parking parce que c'est sec, c'est il y a de l'éclairage, alors que pour aller sous terre, il faudrait qu'ils aient sans arrêt de l'éclairage avec eux, c'est impossible pour eux. Non, c'est on peut pas y vivre.
Qui les entretient? Et parce qu'il y a la partie musée et puis il y a tout le reste beaucoup plus importante, vous nous le disiez, qui entretient les catacombes et les souterrains de Paris?
En fait, depuis donc 1777, il y a un service qui a été créé qui est l'inspection générale des carrières, qui à l'origine avait pour but de recenser et de consolider, et aujourd'hui, ce service doit circuler dans toutes les galeries au moins une fois par an pour vérifier la stabilité de ces galeries, pour voir si le ciel n'est pas en train de se fissurer, si les piliers de consolidation ne sont pas déstabilisés, et donc il fait l'entretien, et ce service tout permis de construire, tout acte de vente qui se déroule dans l'ancien département de la Seine, donc Paris, Seine-Saint-Denis, Haute-Seine, Val-de-Marne, passe automatiquement par le service des carrières, qui vérifie si vous êtes ou non sur des carrières, qui vous donne des préconisations de construction. Par exemple, il faut construire, vous êtes hors carrière, il n'y a pas de problème. Vous êtes sur carrière, il va vous dire, vous faites un radier, vous faites des piliers, des fondations profondes, des piliers, etc. Ou vous êtes à la limite, et ben ce service va vous demander éventuellement de faire des forages pour lui affiner sa cartographie, qui est une cartographie au millième. Parce qu'on a besoin de savoir au mètre près, sous terre, où on se trouve par rapport à la surface.
Il y a des patrouilles de police, puisque c'est interdit.
Il y a un service de police qui a été créé, oui, effectivement, par un commandant qui est aujourd'hui à la retraite, qui était le commandant Jean-Claude Sarat. Il l'a créé parce que cette personne s'était intéressée au sujet des carrières suite à des vols qui avaient eu lieu dans les égouts. Donc il a été amené à descendre dans les égouts. Dans les égouts, il y avait des câbles téléphoniques et fin des années 70, il y a 52 tonnes de câbles en cuivre qui avaient été volés. Donc il s'intéresse au milieu souterrain et étant spéléo, il découvre ce milieu souterrain parisien que sont les carrières et les catacombes et il devient fasciné par ce milieu et il crée à ce moment-là une brigade qui s'appelle l'équipe de recherche et d'intervention en carrière et qui s'est mis à parcourir les carrières dans tous les sens et il a eu des centaines d'occasions de descendre sous Paris et il est en retraite depuis l'an 2000, il est resté amoureux des carrières.
Mais il y a souvent des arrestations.
Quand la police croise quelqu'un, automatiquement, son rôle, c'est d'arrêter la personne puisqu'elle est en infraction et elle lui met une contravention puisqu'il y a un arrêté qui est interdit de descendre sous Paris.
Est-ce que c'est dangereux de se balader seul dans ces catacombes? Je parlais évidemment de la partie interdite.
C'est labyrinthique, donc on peut se perdre dans un labyrinthe, mais c'est d'autant plus dangereux si on se tord le pied et qu'on est tout seul ou si on se cogne la tête et qu'on est tout seul, il faut être capable de ressortir. Donc c'est dangereux dans le sens où ce n'est pas un milieu ouvert comme une rue où vous tordez le pied sur un trottoir. Il va y avoir un passant qui va téléphoner au secours pour venir vous secourir.
On refait un peu d'histoire. Vous avez commencé à raconter l'une des fêtes les plus célèbres organisées dans les catacombes en 1897. Qu'est-ce qui s'était passé? Comment ça s'est
passé?
Alors
le 2 avril 1897, il y a eu un concert clandestin organisé dans l'ossuaire municipal, donc vraiment dans la partie musée d'aujourd'hui. Ça a été organisé le 2 avril parce que si on avait lancé un carton d'invitation en disant 1er avril, etc., il y a des personnes qui ne se seraient pas dérangées, voire la majorité. Donc ça a été organisé le 2 avril et on a joué des musiques de circonstance. Ça a été la marche funèbre de Chopin, ça a été la danse macabre de Camille Saint-Saëns. On a déclamé des poésies romantico-macabres. Et là encore, comme pour en 1874, on s'est aperçu que c'était deux employés du service des carrières qui avaient aidé à organiser cette chose. Donc eux, ont été écartés du service et quelques mois après, ils ont été réintégrés. Donc ça, c'était un gros, gros concert.
Ouais, avec quand même, donc, dans ce que vous nous décrivez, une fascination pour la mort. C'est aussi ce que provoquent les catacombes, forcément. Il y a un peu de ça.
Les carrières, les catacombes, donc les catacombes, c'est un mélange de répulsion, fascination. C'est Héros, c'est Thanatos, c'est les gens qui se retrouvent au milieu de la mort, au milieu de ces ossements, à la limite se sentent encore plus vivants que quand ils sont à la surface.
Est-ce que la construction du métro a supprimé, a détruit une partie des carrières et des catacombes de Paris?
Alors, elle a impacté, elle a eu des conséquences à différents endroits. Par exemple, Place d'Italie, qui était, si on regarde les plans de fin 19e siècle, la Place d'Italie est très très belle au niveau galerie. Il y a des belles architectures et le métro qui est venu s'installer dont on a fait des voies autour de la Place d'Italie et des voies de garage, parce qu'il y a aussi des voies de garage, ça a détruit cette zone de carrière qui est en dessous. Parce que le métro, il est pratiquement à fleur de bitume. Il faut savoir que la voûte du métro est en moyenne à 70 cm sous la chaussée, alors que les carrières sont à 20 mètres de profondeur. Donc le métro, généralement, est au-dessus des carrières, mais le métro est au milieu de la rue, alors que les galeries de carrières sont généralement sous les trottoirs. Et il y a quelques endroits où le métro peut croiser les carrières, comme par exemple à Porte-de-Vanves ou du côté de la rue de Vaugirard. Et bien sûr, le métro est prioritaire dans ces cas-là. La galerie de carrière a été coupée par le passage du métro.
Vous avez parlé tout à l'heure d'une peinture qui recrée la vague d'Hokusai. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres d'art, en quelque sorte, à découvrir dans les catacombes?
Bah, un des conservateurs du Louvre, qui lui s'intéressait à la postérité de Ingres, a fait rentrer dans son catalogue qui inventoriait les peintres qui s'étaient inspirés de Ingres, soit pour la Belle Odalisque, soit pour la Source. Il s'est aperçu que dans une ancienne brasserie sous Paris, accessible à partir des carrières, il y avait une reproduction sur 2,50 m de haut de la Source de Ingres qui avait été peinte par un étudiant des Beaux-Arts. Donc il peut y avoir ce genre de choses.
Gilles Thomas, vous racontez tout cela dans votre livre Les Catacombes, qui est publié aux éditions Le Passage. Est-ce que les catacombes d'aujourd'hui, elles sont en danger? Est-ce que elles sont, je sais pas, vandalisées? Est-ce qu'il y a des endroits où elles risquent de s'effondrer?
Non, elle ne risque pas de s'effondrer parce qu'il y a un service qui supervise régulièrement l'état des galeries, mais il y a des traces historiques qui disparaissent malheureusement de temps en temps, soit à cause de travaux d'urbanisme qu'il peut y avoir au-dessus. C'est-à-dire, si on fait un bâtiment au-dessus d'une galerie qui peut avoir un intérêt historique, ben l'entrepreneur ne va pas voir cet intérêt historique et va éventuellement détruire la galerie qui est en dessous. Mais c'est aussi vandalisé par des personnes qui peuvent descendre sous Paris et qui n'ont pas connaissance de cet intérêt historique et qui vont éventuellement taguer sur les murs ou qui vont faire disparaître des inscriptions qui peuvent dater de la Révolution française. Par exemple, je connais une petite guillotine qui a été dessinée sur une paroi vraiment au moment de la Terreur. Je connaissais, malheureusement ça n'existe plus, des inscriptions qui avaient été laissées par Henri Poincaré. Donc il y avait des autographes d'Henri Poincaré, qui était le plus grand physicien, philosophe, mathématicien que la France avait connu lorsqu'il est décédé. On a même été jusqu'à dire l'intelligence est en deuil. Donc quand il est descendu sous Paris en 1875, il avait mis à deux endroits son nom. Donc ça, malheureusement, c'est recouvert par des traits à la peinture rouge, par des personnes qui non seulement n'ont pas connaissance de l'intérêt historique, mais ne voient même pas ces choses parce que c'est écrit en tout petit.
Oui, ils ont même pas eu conscience de ce qui détruisait d'une certaine façon. Merci beaucoup, Gilles Thomas. Je rappelle que votre livre consacré aux catacombes, l'histoire du Paris souterrain, est publié aux éditions Le Passage. Merci, c'était passionnant.
Merci.
Vous avez partagé votre connaissance. J'étais bluffé par les dates. Je ne sais pas où vous les casez dans votre cerveau, mais alors vous aviez toutes les dates.
Non,
pas une erreur.
Je vis avec.
Voilà. Donc c'est votre environnement. Merci beaucoup en tout cas, Gilles Thomas.
Merci,
c'était passionnant.
Vous écoutez RTL.